Bien, nous allons commencer notre ouvrir notre soirée. Je remercie d'abord, puisque c'est une soirée à la fois organisée par la faculté de philosophie et aussi par les archives de philosophie du Centre Sèvres. Je salue Isabelle Bochet, doyen, François Boédec, président, je les remercie. Et puis Frédéric Brahmi, qui nous fait le plaisir d'être là. L'auteur d'un très beau dossier aux archives de philosophie, La Révolution à l'Histoire. Alors, notre soirée ce soir s'intitule « Entre le pastorat et l'Empire, naissance de la pensée politique en islam ». Et j'ai le très grand plaisir d'accueillir Anouch Gandjipour, qui est directeur de programme au Collège international de philosophie et chercheur associé au Centre Jean Pépin. Je voudrais présenter tout d'abord très brièvement son ouvrage paru en 2014, Le réel et la fiction, essai de poétique comparée, où je dirais, il propose un splendide parcours du côté de la philosophie grecque, Platon, Aristote, Plotin, ensuite avec, je dirais, au départ c'est littérature comparée, mais vous montrez bien que la comparaison va bien au-delà d'une simple juxtaposition et appelle une forme de dialectique et de réponse, jusqu'à ce que, aussi, en monde, je dirais, persan, il y a ce virage où se travaille sur une métaphysique qui permet de fonder un discours théologique et jusqu'à ce qu'il y ait une évolution propre après la théologie en monde persan. Et vous avez aussi préparé pour les temps modernes Dieu, l'islam et l'État, avec un article remarquable, l'islam, quelle théologie, quelle politique. Et j'avoue que je suis assez impatient de vous écouter pour voir dans ce que vous direz s'il y a des résonances entre votre travail et ce que vous avez développé du côté de... Peut-être, d'abord sans rien. Donc, j'indique comment la soirée va se dérouler. Anouch Gandjipour va nous faire un exposé-conférence d'à peu près 50 minutes. Et puis, après quoi, il y aura un temps ouvert à des échanges, à des questions entre vous et Anouch Gandjipour.
Merci Laurent, je remercie d'abord le Centre Sèvres et surtout Laurent Guelvaud de m'avoir invité. C'est bon comme ça ? Je vais vous décevoir parce que je ne vais pas parler de la littérature ce soir, uniquement de la politique et un peu de la théologie. Évidemment, la théologie islamique et aussi un peu de Coran. Mais commençons par une intuition assez forte d'un islamologue qui était au début du XXe siècle, un islamologue allemand. Les islamologues allemands, je le respecte beaucoup, surtout un petit groupe des islamologues vers la fin du XIXe, le début du XXe siècle, qui avait des intuitions formidables pour comprendre ce qu'est l'islam. Donc, je commencerai par notre islamologue allemand, Becker, qui était pour un certain temps le ministre de la Culture de l'État prussien. Il inaugure une revue qui s'intitule Der Islam en 1910. Et le premier numéro de la revue commence par une espèce de manifeste de Becker, qui s'intitule, le manifeste en question, « Der Islam als Problem ». Dans cette introduction manifeste, il avance la thèse suivante. Il dit que nous, en tant qu'islamologues, nous n'avons pas à traiter les problèmes de l'islam. Nous avons tout d'abord à commencer par l'islam en tant que tel, comme un problème. Dans quel sens ? Dans le sens où... l'islam, comme une religion, récapitule en quelque sorte l'ensemble des données, des phénomènes et des problèmes qui ont traversé toute l'Antiquité tardive. L'idée de Becker pendant le XXe siècle tombe un peu dans l'oubli, mais c'est seulement dans une époque plus récente que les spécialistes de l'Antiquité tardive se sont intéressés au phénomène de l'islam pour l'intégrer, le problème de l'islam, dans l'ensemble des problématiques de l'Antiquité tardive, au sens suivant. c'est que il faut élargir l'Antiquité tardive comme période. Il faut considérer l'Antiquité tardive comme une période qui commence par Alexandre, qui s'achève par Mahomet. La thèse est très intéressante dans le sens où ce qu'on trouve comme caractéristique de l'islam, c'est en fait un rapport direct avec l'ensemble des échanges, circulations entre différentes religions, communautés religieuses, États, populations, nations, etc. Donc, ça sera mon point de départ. Mais tout d'abord, je crois que pour comprendre un peu de quoi on parle, nous sommes obligés de partir de deux plans quand on parle de l'islam. Le premier plan, c'est un plan, disons, terre à terre, géopolitique de ce qui a été la terre natale de l'islam, à savoir la région de Hejaz. Il faut savoir que, à l'époque de l'avènement de l'islam, la région de Hejaz, c'est en fait en quelque sorte une zone tampon entre plusieurs empires et royaumes. Tout d'abord, les deux grands empires pouvoirs de l'époque, à savoir l'Empire perse et l'Empire byzantin. Et après, vers le sud de la région de Hejaz, nous avons un royaume plus ou moins puissant, qui est le royaume des Imyars au Yémen. C'est un royaume qui est constamment en passage entre les mains des Juifs, surtout des Juifs et aussi les chrétiens. Et après, de l'autre côté de la mer Rouge, nous avons l'empire d'Aksum avec les rois Négus, qui sont en fait les rois chrétiens. C'est un royaume chrétien fort influent. L'un des rois Négus, à l'époque de Mahomet, c'est le premier qui donne refuge au premier converti à l'époque où Mahomet est toujours persécuté pendant sa première période mécoise. Donc quand on parle du milieu dans lequel l'islam est né, il faut savoir que bon, ce milieu est sur un plan intellectuel, c'est un milieu de paganisme et d'idolâtrie, mais en quelque sorte, un milieu qui constitue un carrefour entre plusieurs courants religieux, politiques, intellectuels qui circulent dans cette région au 5e, 4e, 5e, 6e et 7e siècle de notre ère. Et à tout cela, vous voyez, il est évident que cette région est complètement traversée par le christianisme et le judaïsme, aussi judo-christianisme, très important pour notre débat. Et à travers tous ces courants, il y a aussi le courant souterrain grec qui circule dans ce milieu. Le courant grec qui vient vers l'islam par plusieurs voies, tout d'abord par le christianisme et le judaïsme, et après l'islam, dans le mouvement de traduction, ça continue, c'est-à-dire que les textes grecs sont principalement traduits par l'intermédiaire de la langue syriaque, c'est-à-dire les textes qui sont déjà passés par le christianisme, et aussi par les textes iraniens, parce que l'échange entre le monde iranien et le monde grec a déjà commencé au 6e siècle. Vous savez très bien, la dernière génération des académiciens d'Athènes, Damasius et la compagnie, passent plusieurs années en Iran pour trouver le refuge chez le roi iranien. Donc il y a toujours, l'ensemble des circulations. Alors, maintenant que nous avons un contexte général, j'aimerais bien aborder le débat qui a trouvé une relance pendant l'époque plus récente entre plusieurs spécialistes de l'Antiquité tardive. Et chacun des spécialistes de l'Antiquité tardive ont essayé de jalonner en fait une trajectoire différente qui commence par le monde grec, par le monde chrétien et juif, ou alors le monde iranien, qui aboutit vers ce point de confluence qui est l'islam. Par exemple, j'aimerais bien citer les travaux de Polymnia Athanasiadi, qui, elle, travaille sur les transformations de la philosophie grecque, des religions grecques dans l'Antiquité tardive, pour montrer que finalement, ce qui a existé en germe dans les milieux grecs et après romains, à partir de Jamblique, peut être considéré comme l'ensemble des étapes préparatoires pour donner forme à une sorte d'idéologie d'État, une idéologie au sens d'une orthodoxie totalisante, qui a ses origines dans la philosophie grecque, mais qui devient tout de suite une forme religieuse puissante. Parmi les travaux de Polymnia Athanasiadi, il y a deux qui sont directement en rapport avec notre connaissance du monde islamique. Pour ceux qui sont intéressés, je cite « La lutte pour l'orthodoxie » 2006, aux belles lettres, et « Vers la pensée unique, la montée de l'intolérance dans l'Antiquité tardive », l'ouvrage plus récent, en 2010. La deuxième voie est celle d'un chercheur qui m'intéresse particulièrement, qui est Guy Strunza. Lui, il s'intéresse plutôt aux échanges entre les religions abrahamiques dans l'Antiquité tardive pour montrer que finalement il y a une sorte de koinonia religieuse qui se construit pendant l'Antiquité tardive, quelque chose qu'il appelle une méta-religion comme méta-langage qui peut donner naissance à plusieurs langues différentes de la même famille. Et il essaye de voir, de reconstruire cette méta-religion et voir comment nous pouvons retracer le cheminement qui va vers l'islam. Donc, comme vous pouvez imaginer, le rapport entre le religieux et le politique est au corps de ces travaux. C'est pourquoi je tiens à les citer. Et dans ce sens-là, l'idée forte de Guy Strunza est que, en fait, il y a quelque chose qui se passe dans ces échanges multiples, et c'est la transformation entre un couple de rapports, le rapport entre sacré et profane, d'une part, et d'autre part, entre le public et privé. C'est-à-dire que pendant le règne de l'Empire romain, nous avons la sphère publique qui est foncièrement sacrée, mais le monde privé reste entièrement profane. Avec le christianisme et le judaïsme, ce rapport s'inverse, dans le sens où c'est maintenant la vie privée de l'individu qui est investie par le sacré, alors que la vie communautaire et la vie politique appartient toujours aux profanes. Mais après, nous avons un autre renversement qui est encore plus intéressant, c'est-à-dire qu'avec la christianisation de l'Empire, de nouveau, le public devient sacré. Le public devient sacré avec une distorsion, quand même. La distorsion est la suivante. Maintenant, bien qu'il s'agisse d'une religion civile, mais dans cette religion civile, dans ce public sacré, il s'agit aussi de la vie individuelle, de la conscience de chacun des croyants. C'est-à-dire que il y a une orthodoxie qui se forme autour de ce qu'on peut appeler une voie directe, une voie correcte, si vous voulez, une voie directe ou correcte qui est la voie de l'orthodoxie. Cette voie est directement liée à un État, à une religion civile, mais tout fourvoiement par rapport à cette voie correcte peut avoir des conséquences sur le salut des individus. C'est-à-dire, c'est la conscience de chacun qui est directement impliqué par cette religion maintenant civile. Alors, Sur ce chemin, alors l'enjeu de Stronsa est le suivant. C'est-à-dire que maintenant, si nous voulons parler de l'Antiquité tardive, si nous voulons surtout parler de ce qui a hanté complètement le monde occidental, c'est-à-dire le rapport entre Athènes et Jérusalem, nous sommes obligés de tenir compte aujourd'hui de ce qui a été un troisième pôle, à savoir la Mecque. Donc si nous voulons comprendre ce qui caractérise chacune de ces trois religions abrahamiques, si nous voulons comprendre soit l'islam, soit le rapport entre le christianisme et le judaïsme, nous sommes obligés de considérer ensemble ces trois pôles importants pour la construction religieuse. Il a travaillé pendant longtemps en traversant plusieurs périodes, domaines et dans plusieurs ouvrages, mais l'ouvrage où il récapitule tout cela est un ouvrage toujours en anglais, malheureusement, The Making of the Abrahamic Religions in Late Antiquity, 2015. Et finalement, j'aimerais bien évoquer une chercheuse qui a travaillé pendant longtemps sur l'islam, de façon directe, si vous voulez lire les ouvrages d'une seule chercheuse sur l'islam, je vous recommande les travaux de Patricia Krohn. Elle prend le chemin inverse, c'est-à-dire qu'elle commence par une généalogie à l'intérieur de la politique de l'islam pour remonter plutôt vers l'Antiquité tardive, avec une thèse forte, discutable, mais assez intéressante et de toute façon fructueuse. C'est qu'il faut considérer l'islam comme la suite ou un relais pour ce qui a été le judéo-christianisme pendant l'Antiquité tardive. L'islam s'impose comme une politique parce qu'il a été essentiellement un mouvement messianique. Les premiers califes, le prophète après les premiers califes, se voyaient en tant que messie. C'est pourquoi il avait le statut de représentant de Dieu. Et dans ce sens-là, il y a une articulation directe entre le religieux et le politique dans l'islam, parce que c'est une religion qui est la religion de l'époque d'Apocalypse. Il faut penser la totalité, l'idée de la totalité religieuse qui avait traversé l'Antiquité tardive, notamment par le judéo-christianisme, vient complètement investir l'islam parce que c'est maintenant le Messie qui est arrivé, donc il va prendre en charge l'ensemble des affaires publiques et privées. Alors dans ce sens-là, il y a un désaccord qui va m'intéresser plus directement entre Krohn, il y a toujours un dialogue en distance entre ces trois chercheurs, c'est pourquoi je les ai cités. Le désaccord est le suivant, c'est-à-dire que l'islam, finalement, dans sa formation primitive et après dans son histoire, n'a rien à voir avec l'Empire romain, le modèle califal, n'a rien à voir avec le modèle impérial romain ou modèle perse, dans le sens où le calife, cette espèce de messie, est en fait la condition, disons, la condition sine qua non de deux choses. L'obtention de prospérité dans la vie d'ici-bas, dans la vie publique, mais aussi la condition pour le salut d'outre-tombe, de la vie outre-tombe, pardon. Dans ce sens-là, Krohn voit un clivage net entre ce qui est l'islam, la politique de l'islam avec ce qui s'est passé dans les deux empires. Et dans ce sens-là, la politique de l'islam est tout à fait axée sur l'idée de la guidance religieuse. Pour nuancer un peu, je vais finalement évoquer plusieurs chercheurs, notamment un, qui ont travaillé sur le versant contraire de l'idée de Krohn pour montrer qu'il y a une continuité directe entre la royauté iranienne, enfin le rapport entre le religieux et le politique, notamment dans l'Empire perse sous les Sassanides, et ce qu'on voit dans l'islam. Il y a un ensemble d'idées de développement qui ne sont pas directement en lien avec ce que je vais développer. Simplement, il y a un point qui m'intéresse, c'est que grâce aux travaux de ces chercheurs, on voit très bien que, contrairement à ce qu'on pense, il y a une idée pastorale très forte qui travaille déjà le modèle impérial perse. Les musulmans se sont intéressés à ce modèle, mais surtout ils ont cherché chez les rois iraniens, les modèles pour construire le califat. Donc parmi ces modèles, il y a un roi qui est en fait le modèle, l'archétype de modèle royal chez les Iraniens, qui est le fameux roi Yima, ou comme les musulmans l'appellent, Jamshid. Donc ce roi est très important parce que c'est le premier roi selon la mythologie zoroastrienne, la religion ancienne de l'Iran. Et il a ceci de particulier qu'il fait pendant son statut fait pendant de celui de Dieu, dans le sens où il est au-delà du bien et du mal. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que il est le seul interlocuteur avec le prophète iranien Zoroastre ou Zarathustra. Il est le seul interlocuteur direct de Dieu. Il a ce statut privilégié. Donc il y a quelque chose qui se passe avec ce roi qui est très intéressant, c'est que Dieu va lui confier la charge de l'institution religieuse. Il dit, tu vas en tant que roi te couper de ma religion. Eh bien, il refuse. Il refuse, il dit qu'en tant que roi, je veux pas ça. Je veux pas ça. Dieu va négocier avec lui, il va lui donner une deuxième mission. La deuxième mission, c'est de contribuer à la profilération des créatures, surtout à la reproduction de l'espèce humaine et l'occupation de terre entière par l'espèce humaine. À ce moment-là, Dieu va l'aider de façon suivante. Il va lui donner pour la première fois deux outils, parce que il faut savoir que c'est un roi qui est très important. C'est lui qui établit pour la première fois dans la mythologie iranienne, selon la mythologie iranienne dans le monde entier, la division entre les classes, les rangs, les travaux aussi. Et donc dans toute cette mission, Dieu va lui donner deux outils. Le premier outil, c'est aiguillon. Et le deuxième, c'est l'instrument musique, le cor. Aiguillon pour guider, le cor pour rassembler le troupeau. On voit évidemment toutes ces idées constamment recyclées par les premiers historiens de l'islam, les théologiens, etc. Je vais pas, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Alors, ce que je vous propose ce soir, je propose en fait deux choses. La première chose, c'est que je crois que pour comprendre finalement, pour répondre à l'appel de Becker, pour comprendre ce qu'est le problème de l'islam, il faut évidemment mobiliser toutes ces recherches qui, chacune, par une trajectoire différente, essayent de comprendre l'islam à partir de l'Antiquité tardive. Mais il faut faire aussi un deuxième pas. Le deuxième pas, c'est de trouver ce qui a été vraiment le corps, ou en quelque sorte l'enjeu qui peut résumer tous ces efforts pendant l'Antiquité tardive. Quelque chose qui englobe en quelque sorte toutes ces idées circulant pendant cette époque et qui peut nous aider pour mieux comprendre l'islam. Cet enjeu, à mon sens, enjeu théologico-politique, c'est le rapport, ou la tension plutôt, entre deux modèles qui sont le modèle pastoral et le modèle impérial. Si on essaie de prendre la chose par cette tension, alors à ce moment-là, on peut donner une autre intelligibilité à tout un ensemble de phénomènes comme la loi divine, le livre en majuscule, le califat comme la représentation politique de Dieu, la communauté divine, etc. Ma thèse est que, en fait, l'islam intériorise cette tension à l'intérieur même de cette religion qu'il est lui-même. C'est-à-dire que cette tension qui est dans l'ambiance va à l'intérieur travailler le rapport entre le théologique et le politique dans toute l'histoire de l'islam et dans ce qu'on a aujourd'hui même, ce qu'on appelle la politique de l'islam. Ce qui se passe, c'est que l'islam commence plutôt par cette tension et après, à mesure que l'État islamique devient impérial, vous savez, pour après Mahomet, en fait, dès le deuxième calife bien guidé, Omar, l'islam commence à prendre des dimensions impériales. Il y a des conquêtes du côté de l'Empire perse, des conquêtes déjà dans la péninsule arabique. Et nous avons déjà le début du phénomène impérial de l'islam. Donc, on voit que la forme étatique s'impose, l'islam va vers son modèle impérial, mais toujours avec cette tension interne. Et ce qui m'amène finalement à définir la théologico-politique de l'islam comme une politique bipolaire. Alors, pour mieux comprendre ce que j'essaie en train de vous donner comme ça, comme une thèse brute, je vous propose de regarder de plus près un certain nombre de textes qui ont été tous décisifs au moment même où il y a quelque chose comme la pensée politique de l'islam qui va naître. Pour cela, il y a une époque qui est très importante, enfin, de façon générale, pour l'islam, pour le monde musulman, il y a une époque qui est très importante. Cette époque s'étale entre le 8e et le 9e siècle, à savoir à peu près un siècle après Mahomet. Et surtout, ce qui est important, c'est l'époque transitoire entre la première dynastie islamique omeyyade et la seconde dynastie, qui est la dynastie abbasside. Donc, c'est plutôt vers 750, à partir de 750 jusqu'à 850, qui m'intéresse. C'est l'époque où la dynastie abbasside devient vraiment impériale. Il y a un corps de fonctionnaires iraniens qui investit complètement cet empire, qui va en fait apprendre au calife que maintenant vous êtes des empereurs. Donc on va vous apprendre, nous avons l'expérience, nous avons le savoir-faire, on va vous apprendre ce que veut dire l'empire et comment il faut gérer un empire. Et c'est la chose la plus importante peut-être, c'est à cause de ces exigences impériales que les musulmans commencent à s'intéresser à ce qu'est l'héritage grec. C'est l'époque où il y a le mouvement de traduction commence et nous avons un nombre incroyable de traductions des textes grecs à partir du syriaque ou du persan. Alors, le premier texte que je vais regardez avec vous, de façon un peu rapide peut-être, c'est en fait la lettre de désignation, c'est une lettre officielle. La lettre de désignation du calife Omeyyade, Al-Walid II. C'est un calife pas très important, mais par contre son texte est extrêmement important pour nous. C'est la lettre de désignation de ses deux fils comme ses successeurs. La lettre a été écrite et très probablement vers 743. Donc vous voyez, avec Walid II, nous commençons l'époque qui nous intéresse. Et la deuxième lettre, qui est à l'autre bout de la période en question, c'est une lettre autrement intéressante, c'est la lettre de désignation de son successeur, du calife très puissant abbasside, Ma'mun. Et son successeur, c'est qui ? C'est un imam chiite. C'est la seule fois dans l'histoire de l'islam que sur un plan théologico-politique, le chiisme et le sunnisme se rencontrent autour de cette lettre et cette désignation. Après, le calife abbasside va lui-même tuer l'imam en question, donc l'histoire se termine assez rapidement. Mais c'est ce texte qui reste comme le seul document, en quelque sorte, œcuménique de l'islam entre le sunnisme et le chiisme. Je commence par la première lettre. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la première lettre? La lettre de Walid d'Ould du calife Omeyyad. On voit la définition très claire de la mission prophétique. La mission prophétique, selon notre calife, il est en train d'expliquer ce qu'il entend par le califat. Et il va sans dire que c'est en fait cette lettre récapitule la pensée politique de l'époque. C'est pas forcément le calife lui-même qui a écrit cette lettre. Alors, il va nous expliquer que la mission prophétique est tout d'abord et essentiellement liée à la notion coranique de la voie directe. La voie directe. Sirat al-Mustarim. Alors, la chose intéressante sur un plan étymologique, c'est que le mot même, la voie sirat, c'est un mot d'origine latine, estrata. Alors, cette voie directe ou correcte, sirat al-Mustarim, c'est la voie de Dieu, d'une part. D'autre part, c'est la voie qui mène à Dieu. La voie que tout croyant doit traverser pour arriver à Dieu. C'est le chemin royal, si vous voulez, vers le Dieu. La mission prophétique se définit nécessairement par rapport à cette voie, parce que sur cette voie, il est toujours besoin d'un guide. Ça, c'est une idée très importante. Si on regarde dans le Coran, cette notion se répète 43 fois. C'est très important. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que toujours cette notion est accompagnée par le verbe guider ou le substantif guidance. Huda ou hada. Alors la première chose qu'on remarque, c'est immédiatement l'écho avec l'idée de Strumsa. Vous voyez, à partir de l'empire de Constantin, la voie directe devient le principe de la religion de l'empire, l'orthodoxie chrétienne de l'empire. Nous avons un écho direct de cette idée. Ce que va notre calife dire là-dessus, c'est que l'homme en soi est incapable de s'engager sur cette voie. Il a toujours besoin d'un guide. Et ça, c'est le noyau du pastorat de l'islam. Regardons maintenant la deuxième lettre en question, la lettre de Ma'moun, le calife abbasside, c'est la désignation de l'imam chiite. Donc, on voit très bien qu'il est en train de chercher disons un chemin moyen, une voie œcuménique pour avoir l'accord de l'imam, pour l'allier à son califat. Et du coup, il est en train de développer cette thèse de pastorat, maintenant de façon encore plus claire, à partir de couples, de vocables doubles de berger, brebis, qui est très connu pour vous. Pour cela, le calife abbasside Ma'moun se réfère à une phrase du deuxième calife, bien guidé Omar, le calife qui est très important, enfin, une référence absolue pour l'islam. Et la phrase est devenue, enfin, canonique pour les musulmans. La phrase est la suivante. Omar dit alors, en tant que calife, même si une seule brebis se perd au bord du fleuve, Euphrate, je crains que Dieu ne m'interroge là-dessus. Autour de cette phrase de Mar, Ma'moun va développer un certain nombre d'idées, toujours à partir de vocables de berger et brebis. ra'i, ra'ya, et tous les dérivés dans la langue arabe autour de ce couple, de ce double vocable. Les mots sont très intéressants. La mission de berger, c'est d'abord veiller sur son troupeau. Il doit se soucier de chacun de ses sujets brebis, parce que très rapidement dans la littérature islamique, brebis va en fait désigner le sujet politique. Le sujet politique, raïa, c'est en fait, étymologiquement, c'est la brebis. Le calife dit Mamoun est le refuge où ce sujet brebis, l'ensemble de ces sujets brebis, réunissent et deviennent un tout solidaire. La charge principale du calife est le souci, toujours de la même racine, ra'oya, et le souci de son umma. De leur côté, les sujets n'ont qu'une seule charge, l'obéissance totale de leur guide. Mais cette obéissance totale signifie aussi aider leur guide pour accomplir sa mission. Il devient donc à tout sujet musulman nécessaire d'identifier son guide et de se livrer complètement à ce guide. D'où l'importance capitale accordée à ce qu'est le serment d'allégeance dans la tradition théologico-politique de l'islam, à savoir la notion de bay'a. Tout musulman doit passer ce serment d'allégeance avec son guide. Ce point devient tellement important et dans le sunnisme et dans le chiisme que si vous n'avez pas identifié, selon la parole prophétique, si vous n'avez pas identifié votre guide, vous allez mourir en tant qu'ignorant. La thèse est très forte. Vous n'allez pas mourir en tant qu'égaré ou impie. Vous allez mourir comme si vous n'aviez jamais connu l'islam, comme un païen. Alors, ce qu'on voit ici, c'est deux choses, pour résumer. Sur la voie directe, le calife est le guide. Il a la charge de guider tout un chacun des musulmans, de ses sujets. Mais sur cette voie même et autour de sa guidance que la communauté musulmane va se construire comme une totalité. Donc vous voyez déjà l'idée de omnes singulatum, cher à Michel Foucault. La guidance concerne directement chaque individu croyant, mais en même temps la guidance est la condition sine qua non de ce qu'est la communauté des musulmans. Chaque individu, dès qu'il sort de cette communauté, dès qu'il est un peu égaré par rapport à la voie, et il sort de cette communauté, en fait, il perd sa chance de salut. Là encore, vous voyez ce que j'évoquais à l'instant sur l'idée sur le rapport entre privé-public, d'une part, et d'autre part, le couple de sacré et profane. Nous avons quelque chose qui va dans ce sens-là, mais avec ses singularités. Mais alors, c'est la même, à partir de cette idée de la communauté des sujets guidés, qu'il y a déjà l'idée d'une souveraineté publique et politique qui entre en ligne de compte. Car en fait, si les musulmans doivent aider leur calife dans sa mission de guidance, c'est parce que ce calife a des devoirs concrets et concrètement politiques et publics vis-à-vis de sa communauté. Donc, aider dans quel sens? Aider le calife pour protéger tout d'abord la communauté comme une entité politique contre tous les dangers qui menacent cette communauté. Plus concrètement, il faut que les musulmans aident le calife pour mener la guerre contre les ennemis, les guerres contre les ennemis extérieurs, d'une part, et d'autre part, empêcher la guerre civile, la scission qui menace de l'intérieur toujours la communauté politique des musulmans. Or, ainsi, la nécessité du calife, de la guidance pastorale, la nécessité du calife n'est pas seulement la guidance pastorale, mais aussi la nécessité d'une souveraineté et d'une domination politique. Un passage coranique très important vient toujours étayer cette idée. Le passage, on le trouve justement dans la première lettre dont je vous ai parlé, à savoir la lettre du calife Omeyyad. Le passage est extrêmement intéressant parce qu'il va donner toute une dimension, si je puis dire, obsienne à la politique de l'islam. D'ailleurs, l'endroit où le passage arrive est déjà fort instructif parce que c'est dans la deuxième sourate du Coran, là où le Coran est en train de relater l'histoire de la guerre entre l'armée d'Israël et l'armée de Goliath. David va tuer Goliath, enfin, c'est relaté dans l'islam, David tue Goliath, immédiatement après, il y a l'affirmation coranique, qui est la suivante. David tue Goliath parce que si Dieu ne neutralisait pas par certains hommes les autres, la terre serait complètement corrompue. Notre calife va évoquer le même passage pour rappeler que le califat concerne aussi une mission politique. Je vous rappelle que c'est cette dimension que nous avons, quelques siècles plus tard, qu'un penseur très important de l'islam comme Ibn Khaldoun va mettre au cœur de sa théorie pour développer quelque chose qui peut être considéré comme un pendant islamique de la théorie hobbesienne du pouvoir et de l'État. Alors, ce qui me semble encore plus intéressant pour notre débat, c'est le moyen par lequel l'islam arrive à finalement contrôler cette tension interne entre le pastorat et le modèle impérial. Or, ce moyen, comme vous pouvez deviner, c'est la loi divine, la charia. Dès lors que la loi divine entre en ligne de compte, la guidance du guide se traduit en interprétation et en application de la charia. Calife en tant que guide, c'est celui qui interprète et applique la loi divine dans la communauté et concernant chaque individu musulman. Sans le guide, c'est alors le rapport constitutif de la communauté à la loi divine qui se rompt. Or, là où la guidance se traduit en instance de législation et de mise en œuvre de la loi, il est évident que la voie directe dont je parlais tout à l'heure, elle-même devient traduisible en termes de la loi. Effectivement, si on va regarder de nouveau le Coran, on voit que cette Sirat al-Mustaqim, la voie divine, va s'identifier petit à petit pendant la deuxième période, la période médinoise de Mahomet, lorsque l'islam a déjà son pouvoir établi, Mahomet a son état. Cette voie correcte va s'identifier complètement à la charia. Maintenant, c'est la charia qui est considérée la voie correcte de Dieu et vers Dieu. Alors là, je vais tirer la première conséquence de ce que je viens de dire. Comme on voit, alors, cette tension entre le pastorat et l'empire n'est pas quelque chose qui s'est simplement construit durant l'histoire politique de l'islam, et c'est quelque chose qui est déjà interne, intrinsèque à l'histoire de la jeunesse de l'islam. À l'époque même de Mahomet, dans la construction même de Coran, nous avons cette tension entre le pastorat et l'empire, entre la voie directe, pardon, Salat al-Mustaqim, et ce qui est la charia. Là, pour vous montrer un peu comment les choses vont se transformer progressivement, Et là, nous allons nous intéresser au penseur musulman, au premier penseur politique de l'islam, qui est quelqu'un, un Iranien converti, qui s'appelle Ibn Murafa. Ibn Murafa ou Ibn al-Murafa. Il a vécu pendant la période qui nous préoccupe ici, à savoir la deuxième moitié du 8e siècle. Notre penseur iranien est à l'origine un haut fonctionnaire de l'Empire abbasside. Il constate que l'Empire abbasside est concrètement un empire, mais il n'y a pas une structure impériale. Alors, il va écrire un traité, une épître, au deuxième calife abbasside al-Mansour. On peut dire le premier calife qui a le statut d'empereur. Il va lui expliquer quelle est la structure impériale qu'il faut mettre en œuvre au sein du califat. Alors là, il se passe quelque chose qui est très intéressant et qu'on voit dès le titre de son traité. Le traité s'intitule « L'épître sur l'élite ». Notre penseur va expliquer au calife que maintenant, le califat a besoin d'un corps d'élite. C'est quelque chose qui manque pour avoir un système califat. Le corps d'élite, quelle est sa fonction? Sa fonction, c'est de faire la médiation entre le guide, le calife, et ses sujets. Comme vous voyez, l'idée initiale du pastorat est en quelque sorte évacuée. Maintenant, l'empire n'a pas besoin de pasteur. Le guide, le calife ne doit nullement se mettre en rapport direct avec ses sujets parce que comme ça, il va mettre tout le système en péril. Comme ça, notre penseur iranien propose deux choses au calife. Première chose, il faut écarter de ce corps d'élite, surtout dans l'armée, toute la partie surtout des Iraniens qui ont des idées, des tendances chiites, qui essayent de voir toujours le calife en tant qu'un pasteur qui surpasse la loi et la charia, qui est la garantie de la voie directe. Deuxième chose liée par rapport à la première chose, il faut canoniser la charia, il faut en faire un catéchisme comme une idéologie de l'Empire. Il faut faire de ce catéchisme, dit Ibn Murafa, il faut faire de ce catéchisme le principe idéologique d'éducation de cette élite. Alors, dans ce débat, il faut savoir que d'abord, ça va lui coûter sa vie, parce que le calife ne va pas du tout apprécier l'insolence de haut fonctionnaire iranien qui lui donne des conseils, mais n'empêche que le traité d'Ibn Murafa va faire date, parce qu'il va en fait, en quelque sorte, déterminer le sort final du modèle califal dans le monde islamique. Dans la suite, notre auteur va s'intéresser à quelque chose qui me semble fort intéressant, à savoir le rapport du calife à la charia. Il dit maintenant, le calife ne peut nullement dépasser la charia. C'est pas un pasteur, c'est pas la garantie de la voie directe. Lui-même, il doit se soumettre à la charia. Si la charia veut devenir la charte idéologique de l'Empire, si la charia veut garantir l'unité et l'harmonie de l'ensemble de la communauté impériale, à ce moment-là, le calife lui-même doit se soumettre, comme tout sujet, à la charia. À ceci près que, et c'est ça sa tâche personnelle, la tâche d'Ignorafa, à ceci près que le calife, en tant que nomos vivant, va compléter la charia. Il va donner son interprétation universelle. Il va compléter la charia aussi, là où il s'agit de la raison d'État, du gouvernement, ou alors la décision qui reste en dehors du cadre de la charia. Pour que l'islam devienne à la fois la religion de l'humain et l'idéologie de l'empire, il faut que le calife, dit Ibn Mrafa, fixe son interprétation universelle et civile de la charia. Pour notre penseur iranien, la charia est une religion civile. Il n'y a pas une intériorité qui est engagée par la charia, c'est uniquement les affaires de l'empire, c'est la vie de la politéia, si vous voulez. Sans interprétation du calife, la charia en fait ne trouve pas d'effectivité, elle reste lettre morte. Donc comme vous voyez, l'effort de notre penseur consistait en fait à institutionnaliser le pastorat. À partir de l'institutionnalisation du pastorat, il essayait de faire de la charia l'idéologie impériale, comme je viens de dire, complétée par un nomos vivant. Nomos vivant dont l'idée a traversé encore une fois l'Empire romain et byzantin et aussi l'Empire perse. Mais l'Empire perse, la loi se définissait dans cet empire autrement. C'était pas la même chose que pour la religion abrahamique. Je déborde pas trop. Alors, je vais seulement ajouter une dernière pièce pour compléter ce puzzle. Et là, quand même, je vais parler un peu des philosophes. Pour cela, il faut se déplacer un siècle, parce que la philosophie, comme vous savez, a commencé un peu plus tard. Et je vais m'intéresser au premier philosophe politique de l'islam, et très probablement, au moins à mon sens, le seul philosophe politique que l'islam a connu, à savoir Farabi. Farabi a un ouvrage qui reste plus ou moins marginalisé dans son œuvre, qui s'intitule très bizarrement Al-Milla, Al-Milla qui n'est pas un terme très courant pour désigner la religion. Par ce terme, Farabi entend la religion non pas au sens islamique de terme, mais la religion au sens universel, comme on parle de la philosophie de la religion par exemple, la religion de toutes sortes. Le concept de la religion. Alors, à partir du travail de Farabi, ce qu'on voit, c'est la transformation de la politique grecque pour qu'on puisse l'intégrer complètement, l'adapter à la pensée politique de l'islam et l'intégrer dans le cadre du théologico-politique islamique. Ce qui va se passer dans cet ouvrage, notamment chez Farabi, c'est que la cité ne signifie plus une entité territoriale ou alors une entité qui comprend une population plus ou moins homogène. La cité va devenir chez Farabi une communauté religieuse qui est identique à une communauté politique. Vous voyez, la communauté politique qui était pour les Grecs la cité entre les murs, maintenant va s'identifier à la communauté religieuse, l'ensemble de l'humain, des musulmans. Par cette identification, il y a deux, si vous voulez, modifications ou déformations qui vont se produire. La première modification concerne l'idée même de la religion. La religion n'est plus la religion universelle illimitée. Si la communauté politique et la communauté religieuse sont identiques, c'est parce que pour Farabi, la religion est universelle. L'islam est une religion universelle, mais une religion universelle limitée, parce que elle trouve ses limites par la communauté politique de l'humain. L'islam n'a pas comme mission de s'étendre sur le monde habité totalement, mais il a comme mission de donner les bases idéologiques de la communauté politique. C'est ça, en fait, l'idée principale de Farabi. Dans cette communauté politico-religieuse, la torsion la plus importante de Farabi et les philosophes politiques de l'islam après lui, s'il y en a encore un, c'est que le philosophe roi va devenir le prophète. En fait, philosophe roi va devenir le prophète roi, selon l'exemple de Mahomet. Mais il y a quelque chose qui se produit au niveau du contenu de la religion qui va nous intéresser. Le contenu de la religion doit représenter chez Farabi les statuts sociaux, les classes, au sens large évidemment, à l'époque il n'y a pas de classe, les rangs, la division de travail, et l'ensemble de ce qui constitue la communauté politique, pour lui, la cité au sens revisité. Comme vous voyez, donc, la religion a complètement une fonction étatique politique, pour ne pas dire impériale. Elle donne en fait un exemple à partir des représentations, et elle donne un exemple à suivre par chaque sujet. Chaque sujet pour trouver la place qui lui convient, la place qui, en fait, qui lui est répartie. Chaque sujet pour se définir par rapport aux autres rangs, aux autres individus, fonctions. Prendre l'exemple de la religion, à partir des images religieuses, ce sujet va trouver des exemples pour trouver sa place et pour accomplir de façon idéale la tâche qui lui revient dans l'ensemble de la société. Alors là, nous avons aucune trace du pastorat. Et cela pour cause. Parce qu'après les philosophes, le pastorat islamique va complètement disparaître du champ politique. Maintenant, c'est le soufisme, les mouvements mystiques qui vont s'occuper de l'idée de pastorat. L'idée de pastorat n'empêche que l'idée de pastorat va survivre, va continuer. Dans l'histoire de l'islam, il rejaillit à plusieurs reprises, pour redéfinir complètement la politique de l'islam en introduisant cette tension dont je parlais tout à l'heure. Pour vous donner deux exemples dans le chiisme et le sunnisme, l'idée de pastorat va se structurer autour de la notion de baraka dans le monde sunnite. Et ce pastorat, en fait, va être incarné par l'ensemble des saints sunnites, les marabouts, qui ont donné plusieurs dynasties pendant l'histoire, notamment au Maghreb. Les dynasties almohades, almoravides, et même les dynasties suivantes, se sont toujours constituées autour de cette idée de pastorat. On peut dire qu'au Maghreb, surtout au Maroc, jusqu'au XIXe siècle, c'est ce pastorat mystique qui est en fait le noyau théologico-politique à l'œuvre dans toute cette région. Et dans le monde chiite, il y a l'idée de la valaya qui va en quelque sorte continuer, développer, enrichir le pastorat originaire de l'islam. Alors là, je termine par une remarque qui va peut-être donner une autre intelligibilité à ce que je viens de dire. Lorsqu'en 1979, Michel Foucault va en Iran, Il a immédiatement le flair philosophique qu'il avait, il est immédiatement intéressé par le phénomène de cette politique religieuse qui est en train de naître avant la révolution iranienne. Eh bien, je suis convaincu que ce qu'il avait entrevu dans ce mouvement religieux et politique en Iran était directement en lien avec ses leçons, ses cours au Collège de France un an avant autour de la notion de pastorat. Exactement un an avant, dans les cours qui s'intitulent « Sécurité, territoire, population », Michel Foucault développait l'idée du pastorat qui était en fait l'origine du gouvernement dans le monde occidental, cette idée qui avait ses racines dans le christianisme primitif et dans le judaïsme, et qui était après abandonnée complètement par la pensée politique occidentale. Eh bien, un an après, quand il allait en Iran, il voyait quelque chose de ce genre qui était en germe dans ce mouvement théologico-politique, qui était en fait effectivement sous la forme de la valoria, la continuité de pastorat islamique. C'est ça ce qu'il voyait. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'était cette tension entre le pastorat et l'empire. Il ne voyait pas que le pastorat a toujours un autre versant qui passe par la loi et la charia. Le pasteur devient le garant de la loi, l'interprète de la charia. Et à ce moment-là, nous sommes un peu éloignés par rapport à ce qui a été l'idée initiale de pastorat dans le monde chrétien et juif. Je crois que je vais m'arrêter là pour répondre aux questions. Je vois des visages.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette remise en histoire, je dirais, de divers éléments. D'abord, une mise en contexte des débats qui sont posés à partir du problème, je dirais, formulé par Beckert et des tensions qui apparaissent, où tout de suite vous montrez combien il y a une tension qui se pose entre pastorat et empire, où se joue le problème à la fois du sacré et du profane, du public et du privé, et toujours dans ce travail de remise en perspective historique, il y a ces deux lettres importantes que vous avez évoquées, donc qui montrent comment une tension entre pastorat et empire se met en place et structure progressivement à la fois d'un côté ce qui va constituer selon des structures politiquement, on dirait un État, et de l'autre, traversé par des dialectiques de figures théologiques entre le pasteur et celui qui interprète, qui guide. C'est assez éclairant, je trouve, pour comprendre un peu ce qui peut se jouer plus tard. En tout cas, merci beaucoup pour votre conférence, qui a le mérite, alors évidemment, ce haut fonctionnaire qui commence à théoriser l'État, doit penser ces structures, et c'est très important d'avoir remis en perspective des choses que l'on peut admettre un peu trop facilement. Alors, on va prendre quelques questions, plutôt des paquets de questions, et
je commence par, pardon, si vous me permettez, préciser un point sur ce haut fonctionnaire, parce que le haut fonctionnaire en question, c'est en fait l'inventeur de la prose arabe. C'est une figure extrêmement importante pour l'histoire intellectuelle de l'islam. Il était l'inventeur de la prose arabe, parce que vous savez, il y a une tradition longue de la poésie arabe pré-islamique, mais la langue arabe n'avait pas véritablement développé une prose. Donc, ce converti iranien, c'est l'inventeur, il est considéré comme l'inventeur de la prose arabe. Il est traducteur par les traductions qu'il a faites. Il a extrêmement influencé toute l'histoire, surtout de la pensée politique de l'islam. Donc je n'avais pas le temps d'évoquer tout ce qu'il a fait, c'était en dehors du cadre de notre débat, mais Ibn Mourafa est une figure très posante dans l'histoire de l'islam.
Alors on va prendre peut-être d'abord deux ou trois questions et puis vous verrez comment vous répondez.
Non, parce que tout ce que je viens d'expliquer, c'était principal. Justement, j'ai fait exprès pour écarter un peu le côté chiite. Je me suis principalement intéressé ici à ce qui se passe dans le monde califal, où le chiisme est complètement absent, sauf cette lettre qui est à un moment, comme je viens de dire, œcuménique. Entre les deux courants, les califes en question sont sunnites, sont toujours dans le cadre du sunnisme. Et parce que pour le monde chiite, la chose se définit autrement. Un peu, enfin, toujours dans ce cadre, mais de façon un peu différente. Parce que pour les chiites, la chose est, enfin, ils ont réglé cette tension de manière suivante. Le pasteur, enfin, le guide, est le législateur. Il peut suspendre la loi. C'est lui, en fait, qui est là, finalement. Les imams, il y a par exemple un adjectif pour les imams, d'autres adjectifs très importants. Les imams sont les Corans parlants, les livres parlants, et ils sont aussi le nomos suivant, vous voyez, le nomos suivant au sens fort du terme, c'est-à-dire que c'est l'imam qui va vous dire, il va décider sur tout parce qu'il est la figure par excellence du pasteur. Donc, j'ai pas abordé cette dimension chiite pour me concentrer sur le califat de l'islam majoritaire.
Bedek.
Le chiisme, sur certains points, surtout sur la notion de pastorat, s'approche éminemment du christianisme. S'approche éminemment du christianisme, mais toujours en gardant quand même la loi comme la pièce principale de la révélation coranique, la révélation de Mahomet est principalement une loi. Mais oui, tout à fait, parce que l'imam, c'est en fait le pasteur par excellence. C'est lui qui va décider sur la loi, c'est lui qui va interpréter la loi, c'est lui qui va annuler la loi. Ce pouvoir, c'est quelque chose qui est inconcevable si on reste dans le cadre de l'islam majoritaire. Et ce qui se passe avec la politique chiite contemporaine, pour un tas de raisons historiques, intellectuelles liées à la modernité, l'État chiite est basé sur un principe, c'est que le guide suprême, non pas en tant qu'imam, mais en tant que représentant de l'imam, a droit de suspendre la loi de charia. C'est quelque chose qui a été complètement inconcevable dans toute cette histoire. Par exemple, revenons à notre penseur iranien, Ibn Mourafa. Ibn Mourafa est tout à fait clair. Il dit, toi, en tant que calife, tu n'as pas du tout droit de transgresser ou surpasser la charia. C'est pas imaginable. Lui, il est en train de construire, évidemment, l'Empire. Mais pour vous dire que si on reste dans la logique théologico-politique de l'islam majoritaire sunnite, ce dépassement de la loi reste quelque chose de complètement inconcevable. La charia a tué le pastorat? Non, elle n'a pas tué la preuve et que le pastorat rejaillit constamment, réémerge au sein de la politique de l'islam. La charia a été en fait une manière pour régler cette tension. Une manière pour régler cette tension à mesure que l'islam devenait une idéologie impériale. Vous voyez, les penseurs en question, par exemple le penseur iranien et Farabi aussi, ont essayé de tuer le pastorat par la charia parce qu'ils avaient un programme très clair. La religion est principalement une religion civile. Autrement dit, pour nos penseurs, disons au sens large du terme, l'idéologie de l'État. À partir du moment où la charia est considérée comme l'idéologie de l'État, il est évident qu'il faut écarter le plus possible toute notion de pastorat. Parce que c'est la... Après, il y a des raisons concrètes. C'est-à-dire que si on n'a pas la charia comme une charte au sein de l'Empire, qu'est-ce qu'on va faire avec les populations différentes, avec les conceptions différentes de pastorat? Tout ça est expliqué dans ce petit traité très dense d'Ibn Morafa. Il va dire au calife que maintenant l'Empire a plusieurs populations. C'est très dangereux que les populations ou les groupes différents aient des idées complètement divergentes sur la nature de ton califat, sur la nature de ce qu'est l'islam et la guidance à l'intérieur de l'islam. Pour toutes ces raisons, ces penseurs-là ont tendance à effectivement tuer le pastorat, mais ce n'est pas le cas du théologico-politique au sens large de l'islam. Et une remarque sur peut-être quelque chose qui peut être intéressant sur ce que vous dites, l'ignorance sur l'islam. Je crois qu'une façon très intéressante de comprendre la configuration de l'islam est le rapport qu'il entretient finalement par rapport aux deux autres religions abrahamiques. Et c'est pourquoi j'avais commencé par tous ces chercheurs, la problématique de l'Antiquité tardive. Une manière très intéressante d'aborder tout cela, c'est de lire les controverses, les premiers textes, les textes historiques de controverses entre les chrétiens et les musulmans, les juifs et les musulmans. Si vous cherchez des idées très claires sur la manière dont l'islam se situe par rapport au christianisme ou réciproquement, une façon très instructive serait non pas de lire simplement le Coran, des choses qui sont un peu difficiles, mais plutôt lire par exemple Jean Damascène, les textes, par exemple les premiers textes, les textes pendant cette époque-là, parce qu'il faut savoir que les premiers textes que nous avons des controverses entre les juifs et les chrétiens, les juifs, les zoroastriens et les musulmans datent du 8e, 9e et la suite. Il y a par exemple une correspondance probablement apocryphe entre Jean le patriarche d'Antioche et un général de l'armée de l'islam. Ça c'est le premier texte en effet. Après nous avons un texte qui est certes apocryphe, mais l'intérêt de ces textes n'est pas leur origine historique, c'est de voir comment les chrétiens se sont situés par rapport à l'islam, comment ils ont vu l'arrivée de l'islam. Vous avez une série de textes, la correspondance entre Léon III et Omar II, par exemple, le calife Omeyyad. C'est très intéressant, très instructif. Dans mon exposé, j'ai tenu à signaler ce point que cette tension existe déjà à l'époque même, à l'origine de l'islam, à l'époque de Mahomet. Donc vous voyez, c'est originaire, intrinsèque à la naissance même de l'islam. C'est-à-dire que entre les deux périodes mécoises et médinoises de Mahomet, vous avez cette tension entre la conception pastorale de cette religion.
Même la période mécoise.
Oui, mais la période mécoise met tout le poids sur le côté pastoral. À mesure que Mahomet établit son pouvoir étatique, la charia prend beaucoup plus d'importance. Et évidemment, pour des raisons très concrètes, nous avons besoin d'une charte. Mais ce qui est intéressant, là encore, dans les débats sur l'Antiquité tardive, Par exemple, on voit très bien que quelque chose comme la charia existe déjà à l'époque de l'empereur Julien, à partir des textes des philosophes grecs et les textes religieux de la Grèce antique. Il y a quelque chose qui se construit comme une charia, une orthodoxie, qui est l'idéologie de l'Empire. Tout à fait. Non, le contenu est différent. Ce qui est intéressant, c'est la forme orthodoxe qu'on donne à un ensemble de contenus religieux. Il ne faut pas transgresser tel ou tel contenu religieux. C'est ça, c'est l'orthodoxie en tant que telle qui nous intéresse. Évidemment, le contenu est lié à plusieurs facteurs. Tout d'abord, les circonstances politiques et géopolitiques, enfin la région dans laquelle l'islam naît. Il me semble qu'on parle de deux choses. Effectivement, il est question de la voie directe, mais cette voie directe n'est pas sirat al-mustaqim. Parce que le mot mustaqim, on peut le traduire de deux façons. Soit direct, soit correct. La voie directe ou correcte. Vous voyez, il ne s'agit pas du tout d'un rapport immédiat avec Dieu, d'où la nécessité de la guidance, vous voyez, ou l'intermédiaire de la charia. Cette voie, on peut traduire un peu librement le chemin royal. Ce chemin royal a besoin d'un guide. Et ce qui est intéressant et important, c'est que c'est un seul chemin. Il n'y a pas deux chemins. Vous voyez, il y a un seul chemin. Et là, comme je viens de dire, le deuxième point intéressant, c'est que sur ce chemin, les humains ne peuvent pas, n'ont pas la faculté de s'engager directement. Il est toujours besoin d'un guide. Et si vous voulez, c'est cette conception-là qui va être développée chez les soufis aussi. C'est-à-dire que même si vous cherchez un rapport immédiat, vous avez toujours besoin de guide, un pasteur.
Frédéric Brahmi.
Alors, c'est très intéressant. Oui, merci pour ta question. Identifier dans quel sens? C'est-à-dire que, dans plusieurs sens, en fait. C'est très intéressant, ta question, parce que c'est le principe même de pastorat. C'est-à-dire que tu entres en rapport direct avec ton guide. C'est pourquoi il y a quelque chose. Même aujourd'hui, je suis obligé de parler de ce phénomène complètement inintéressant qui est Daesh. Même, enfin, là, tu es obligé de faire le serment d'allégeance en tant que sujet de cet état individuellement. C'est-à-dire que tu dois reconnaître le calife en tant que ton guide, identifié dans ce sens-là. Et après, il y a un autre. Enfin, il y a une autre interprétation très intéressante, surtout si ça devient le dogme principal du chiisme. Tu sais, cette phrase, cette citation prophétique, c'est la base du catéchisme chiite. J'ai appris au collège, j'ai répété ça, celui qui meurt en ne pas reconnaissant son guide personnel, son imam personnel, il meurt comme si il avait été ignorant. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que cette guidance a toujours inévitablement un aspect intérieur. C'est pas simplement parce que tu es membre d'une communauté que tu es en rapport avec ton guide. C'est de ce point de vue, c'est exactement ce que Foucault essaye d'expliquer que par l'idée de pastorat. C'est-à-dire que tout le monde, et chacun singulièrement, individuellement, le rapport avec ton guide, surtout quand le rapport devient intérieur, c'est un rapport toujours singulier. Les deux rapports ne peuvent pas être identiques. Parce que tu entres en... Tu vois ce que je veux dire? Alors, je vais te surprendre pour dire que la chose est encore plus intéressante dans ton sens. Ibn Khaldoun a très bien expliqué, parce que le mot pour serment d'allégeance en arabe, c'est bay'a. Bay'a, c'est-à-dire tout d'abord vente et après interaction, d'accord, au sens général. Alors, pourquoi bay'a? Ibn Khaldoun explique. Il dit... Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le souverain qui va vendre sa souveraineté et les sujets sont obligés d'acheter sa souveraineté. Ça se fait dans le sens inverse. Ce sont les sujets qui vont vendre au souverain le droit de surveiller sur eux-mêmes. Tu vois ? Exactement. C'est Hobbes. C'est-à-dire que tu vas vendre. Le droit de soi. Et là, encore plus intéressant, c'est que dans la définition d'Ibn Khaldoun, on va parler dans ton séminaire de ça, dans le développement d'Ibn Khaldoun, la définition a encore une suite. En tant que sujet, chacun va vendre le droit de surveiller sur lui-même et sur l'ensemble des autres membres de la communauté. Non, c'est pas affreux, parce que tout le monde est obligé de faire ça.
Monsieur.
C'est ce que je viens de dire. Absolument, c'est ce que je viens de dire. Maraboud, les marabouts autour de la notion de baraka, c'est la suite de la notion de pastora, à mon sens. Une suite qui a trouvé beaucoup de succès dans le monde africain, et nous avons plusieurs dynasties basées sur cette notion de baraka, les marabouts et tout ça. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, alors, il faut savoir que ce pastorat devenait tellement large et avec en comprenant des idées tellement variées que ce n'était pas nécessaire pour les saints africains d'avoir une connaissance très poussée, parce que c'était plutôt laissé pour les juristes et les spécialistes de la loi, mais il avait accès à, enfin, c'était quelque chose qui s'apprenait dans les écoles maternelles, dans les maktab, les écoles traditionnelles. On apprenait à lire le Coran comme le texte principal. Ça, c'était quelque chose qui plus ou moins a été pratiqué pendant toute l'histoire de l'islam dans l'ensemble du monde musulman. Dans le Maghreb, il me semble que ils sont dans le Maghreb, les gens sont arabophones, non? Par la conquête des musulmans.
Il y avait une question là que monsieur derrière voulait poser. Mais on peut revenir.
Oui, bay'a, c'est un contrat. Bernard Bourdin, spécialiste de la théologie politique. Oui, Bernard, il y a un contrat. Baïa, c'est un contrat. Alors, si tu veux, dans les textes, là, je parle plutôt des textes de la jurisprudence chiite. Tout ce qui concerne la souveraineté politique ou la souveraineté au sens large est un sous-chapitre du chapitre Baïa, qui est la transaction. C'est-à-dire que l'ensemble de la souveraineté est considéré comme une branche des transactions. C'est-à-dire, tu as la vente, tu as les contrats, tu as les bails et tu as le contrat de souveraineté. État ou nation, parce qu'on parle de deux choses. Vous voulez dire, là où j'ai un peu abordé les idées de Farabi, j'ai essayé de traiter cette question, c'est-à-dire que avec la notion de la communauté islamique, Ummah, nous avons une nouvelle forme de la nation qui n'est pas en fait une nation. Ummah peut être constituée de plusieurs nations à partir du moment où des Africains du Nord-Afrique qui sont musulmans, ils sont considérés comme partie de cette Ummah. Donc, cette Ummah est constituée de plusieurs nations, mais c'est l'entité, enfin la communauté politique de l'islam par excellence, la communauté religieuse et politique en même temps de l'islam. Pour l'État, je n'ai pas très bien compris votre question.
Moi, j'aurais une question, alors je vais revenir à votre livre et poser une question de l'ordre de l'analogie, parce que dans votre livre, vous avez tout un passage sur, enfin, toute une partie consacrée à la philosophie grecque, à partir de quoi il va y avoir comme des éléments qui vont permettre à une métaphysique de fonder un discours théologique en islam. Quel serait l'analogue côté politique? Par exemple, est-ce que du coup, il y a des éléments de philosophie grecque qui vont permettre de penser la notion de cité, d'État, et ultérieurement, parce que vous avez parlé des modèles, l'Empire romain, l'Empire perse, mais quelle est une sorte de réserve conceptuelle qui viendrait du monde grec, si il y en est une.
De façon générale, et ça c'est ma conviction forte, il y a une réserve principale pour toute la pensée islamique. Enfin, il y a plusieurs, mais en ce qui concerne le monde grec, la réserve principale, c'est le néoplatonisme. Qu'on pense aux religieux, au politique, au théologique, au philosophique. Il y a un passage indispensable par principalement Plotin et Proclus. Donc, si on cherche les origines, pour le dire autrement, la pensée islamique jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de la pensée islamique, je parle de la philosophie islamique qui avait sa suite, même après Averroès, surtout dans le monde oriental de l'islam. La pensée islamique s'est constituée à partir d'un dialogue ininterrompu avec Plotin et Proclus. Et ce qui est étrange, c'est que ce Plotin n'a jamais été connu jusqu'au XVIIIe siècle par les musulmans. Il était considéré comme Aristote qui a écrit un ouvrage de théologie. C'est pourquoi je dis que c'est le passage indispensable, parce que Plotin permettait aux musulmans d'ajouter une pièce qui manquait à Aristote, qui était une théologie au sens fort du terme. dans la tradition, je vais vous expliquer. Dans la tradition islamique, nous avons quelque chose qui s'appelle adab. Adab, c'est le paquet de l'éducation indispensable. Littéraire, philosophe. Adab, si vous cherchez un équivalent, je vais vous en donner même deux. C'est l'équivalent islamique de paideia. Ou, si vous cherchez un autre équivalent un peu plus moderne, bildung. Donc, Ibn Morafa avait la même bildung que tous les autres. Dans ce adab, bildung, il y avait d'abord la jurisprudence, l'interprétation du Coran, beaucoup de littérature, les sciences rationnelles, à savoir logique, et tout cela. Mais dans le cas d'Ibn Morafa, c'est un peu différent parce que là, nous sommes dans un cas particulier, il s'agit d'un converti. Il s'agit d'un converti, c'est-à-dire que son éducation principale était une éducation iranienne perse. Mais le modèle reste le même, c'est-à-dire que tous les penseurs traditionnels, je crois que même en Occident, c'est la même chose. Enfin, on commence par un ensemble de choses les études de Bible, de la pensée traditionnelle, Aristote, il faut absolument lire Aristote, un peu Platon et tout ça. Il n'y a pas une division nette et tranche dès le début. Dès qu'on va à l'école, on ne va pas suivre des parcours divergents dans les sciences. Notre auteur avait suivi ce parcours, mais il avait comme fonction principale, il était secrétaire d'État, haut fonctionnaire. Il s'occupait des affaires de l'État. Non, il n'y a pas de créneau. Enfin, prenez par exemple l'exemple d'Avicenne. Avicenne était un grand médecin, en même temps un grand philosophe, parce que tout ça faisait partie de son éducation. Il avait commencé par les sciences physiques, qui étaient les sciences basses, pour arriver aux sciences hautes, qui étaient métaphysiques et théologiques. Le deuxième point, c'est en fait un point de désaccord avec mon ami Abdou Filali Ansari. Lui, il est très inspiré par ce théologien égyptien après la chute du califat. Il pense que, le théologico-politique n'a jamais existé dans l'islam. Moi, avec toute l'amitié et le respect que j'ai pour lui, je crois que c'est un effort pour christianiser un peu trop l'islam. Parce que le message prophétique n'est pas simplement un message de la paix éternelle qui se trouve dans le ciel, mais aussi, c'est une politique au sens fort du terme, qui engage complètement l'aspect public de la vie des individus. Et la première question, pardon, j'ai... L'attention, parce que... Je voulais vous montrer que cette tension qui existait, en fait, cette tension que toute l'Antiquité tardive a essayé de régler et penser en quelque sorte, a été intériorisée dans l'islam. L'islam n'a pas tranché pour choisir le pastorat ou le modèle impérial, la religion civile, mais il a essayé d'intérioriser cette tension pour lui donner une autre forme, pour le régler autrement à partir de la charia. Peut-être.
Peut-être nous pouvons en rester là. Nous vous remercions beaucoup de ces précisions et de ces éléments qui campent une histoire sur laquelle nous avons trop rapidement, je crois, tendance à faire l'impasse. Et donc c'est cette histoire-là qui permet de donner une intelligence à ce qui se joue après. En particulier.
Et surtout, un point sur lequel je ne cesse d'insister, c'est que contrairement à cette idée reçue, surtout chez nous, ici en Europe, l'islam n'est pas quelque chose de complètement éloigné, étranger pour nous. Non, c'est très proche. C'est une possibilité qui a toujours coexisté avec les autres possibilités qui ont formé l'histoire européenne. C'est l'effort de tous ces chercheurs de montrer que finalement, voilà, l'islam n'est pas étranger complètement. Il faut tenir compte de sa proximité aussi.